en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Suite de votre rendez-vous littéraire avec un des auteurs des éditions Mutine, présent à l'hôtel de Vogüé à Dijon, c'était le 28 novembre 2015 où étaient célébrés les 20 ans des éditions Mutine. Place à Lionel Cepoloni pour l'éloignement, voyage au pays sans nom que lui a inspiré un séjour de 7 ans en Guyane française où il fut nommé professeur de lettres. De cette rencontre avec la Guyane française située en Amérique du Sud, il confie ses souvenirs et fait également œuvre d'engagement, mais d'engagement littéraire en dénonçant notamment la destruction du peuple Wayana au contact de la civilisation occidentale, de l'alcool et de la drogue. Son plus tarder, faisons connaissance avec Lionel Cepoloni.
Alors, moi je suis donc, je dirais avant tout écrivain. Mon travail, c'est principalement d'écrire. Je suis également professeur de français, je ne vis pas de l'écriture.
Vous n'êtes pas bourguignon ?
Je ne suis pas bourguignon puisque j'habite en Savoie, dans un petit village de Savoie. J'ai séjourné pendant 7 ans en Guyane. Ça a été un petit peu le fil conducteur du dernier livre que j'ai publié aux éditions Mutine. Et à côté de cela, j'ai une vie de famille tout à fait riche, belle et ordinaire. Une vie de musicien aussi. Donc c'est un petit peu tout cela à la fois, l'écriture, la musique. Tout ce qui fait que la vie peut être plus belle, plus intense et plus riche.
Une existence bien remplie. Parlons un petit peu de votre dernier livre, L'éloignement, avec comme sous-titre « Voyager au pays sans nom ».«
Voyage au pays sans nom ».«
Voyage au pays sans nom ».
Oui.
Vous aviez besoin d'écrire autour de ce pays qui vous a éloigné de la France et qui vous a amené sur des chemins exotiques, des chemins aussi parfois un peu dangereux, dans des conditions de vie très difficiles que tout le monde ne supporte pas.
Alors, bon, ça n'était pas si difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses plus difficiles que cela. Moi, j'étais envoyé en Guyane comme professeur de français, donc c'était somme toute beaucoup.
Mais c'était un choix.
C'était un choix, absolument, oui. Mais c'était malgré tout plus confortable que la vie que je voyais menée, par exemple, par les orpailleurs brésiliens dans la forêt. Il y avait la nécessité d'en parler, peut-être d'abord tout simplement de témoigner pour ce que j'avais pu voir, de choses touchantes, de choses parfois assez cruelles en Guyane. Mais au-delà de cela, il y avait la nécessité pour moi de renouer avec l'écriture. L'éloignement, c'était aussi l'éloignement de l'écriture. Je revenais d'une longue période de silence, 7 ans en Guyane, et puis ensuite j'ai mis 5 ans pour écrire l'éloignement. Je m'étais éloigné de ce par quoi je me sentais le plus appelé, c'est-à-dire l'écriture. Et le livre parle aussi de cela. Le voyage au pays sans nom, c'est aussi un voyage dans un pays où on n'arrive plus à parler, où on n'arrive plus à nommer les choses, où on est au bord de l'aphasie. J'avais perdu la voix en Guyane. Et j'évoque cela dans le chapitre de milieu, dans le chapitre central de l'éloignement. Un moment où on ne peut plus parler, c'est un retour à la parole.
En tout cas, vous avez rencontré les peuples de cette Guyane française. Vous avez, et vous me l'avez dit préalablement, vous avez aussi assisté de manière impuissante au suicide d'amis indiens. Et vous aviez envie que ces morts ne restent pas oubliés. Est-ce que ce texte s'inscrit, me semble-t-il, comme dans tous les autres livres que Marie-Thérèse Mutin publie, c'est-à-dire, est-ce que ce texte s'inscrit aussi dans un engagement ?
L'engagement n'était pas direct, c'est d'abord un engagement littéraire. C'est-à-dire que c'est d'abord un engagement à dire les choses au plus près de ce que j'avais pu vivre, avec le plus de justesse possible. Donc c'est d'abord un engagement littéraire plus que militant. C'est pour ça que ce n'est pas un témoignage. J'ai lu des témoignages qui m'ont beaucoup intéressé, par exemple sur les Wayana en Guyane, et j'en parle dans le livre, mais ce n'est pas vraiment cela. Il y a néanmoins une dimension, même si elle est un petit peu en retrait, il y a quand même une dimension, disons, de dénonciation et de profonde tristesse vis-à-vis de ce que je voyais, c'est-à-dire, oui, la destruction, l'autodestruction et la destruction de, principalement du peuple Wayana, qui est une honte pour la République française.
Et qu'est-ce qui les détruit alors ?
L'alcool, la drogue, le contact avec la civilisation occidentale, le collège où j'enseignais aussi, qui faisait beaucoup de mal à ces jeunes Wayana qui n'apprenaient pas ce qui leur permettait de s'insérer dans la société guyanaise, mais qui désapprenaient ce qui leur permettait de vivre la vie traditionnelle d'un village de l'intérieur guyanais. Donc j'étais, de ce point de vue-là, j'avais le sentiment d'être dans une situation où je ne pouvais pas faire de bonnes choses vis-à-vis de ces élèves et de ces enfants amérindiens.
Et pourtant, vous avez renouvelé ce contrat d'enseignant en Guyane, alors que vous auriez pu retourner en France. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu rester 5 ans de plus ?
Oui, alors je suis resté quand même en tous ces temps. D'abord parce que j'aimais beaucoup le pays, c'était une expérience très, très riche, très, très âpre. J'ai quitté néanmoins le premier collège où j'étais, donc dans l'intérieur de la Guyane, pour me rapprocher de la côte, où là, j'ai côtoyé différemment les Amérindiens. Je dirais que dans la première partie, j'évoque les Wayana, qui sont donc des Amérindiens à l'intérieur de la côte, qui sont à l'intérieur de la Guyane, à 500 km des côtes. Et c'est un petit peu l'Amérindien vu de loin, tel qu'on le rêve, tel qu'on le fantasme. Et j'ai vu que ça ne me menait à rien, que moi, personnellement, je ne pouvais rien faire. Dans la deuxième partie, je raconte la rencontre avec un autre Amérindien, un de mes élèves, un Amérindien palicourt, qui, lui, ne connaissait plus la langue indienne, qui était beaucoup plus acculturé, déculturé, et qui était un petit peu un vagabond, qui nous accompagnait, ma femme et moi, pendant plusieurs années, qu'on a eu à la maison par intermittence. Et je dirais que là, c'était une approche beaucoup plus intime, différente. Je me posais la question, qu'est-ce qui reste d'une culture, en l'occurrence la culture amérindienne, quand tout a disparu, quand les rites ont disparu, quand la langue a disparu? Il restait une certaine qualité de regard, une certaine qualité de présence aux choses, que finalement je pouvais moi-même incarner. Dans la troisième partie, c'est cela que j'évoque. Je dirais que tout ce que j'ai pu voir et vivre de beau au contact, notamment de ce jeune Amérindien palicourt, j'essaye de l'incarner moi-même. Je pense que cette qualité de rapport aux choses qu'il avait, je pouvais l'avoir aussi. Je la cultive, je l'apprends, en marchant dans la forêt, en regardant et en écrivant. Et d'une certaine manière, j'ai cherché par l'écriture à incarner ce que je voyais disparaître dans les cultures amérindiennes.
Alors, Lionel Cipollone, est-ce que je peux vous demander de nous lire un passage donc de votre dernier texte, qui s'intitule « L'éloignement ». C'est une récente publication des éditions Mutine en cet automne-hiver 2015, histoire de donner à nos auditrices et auditeurs un certain regard, une certaine impression sur ce pays, la Guyane française, où vous avez séjourné durant 7 ans comme enseignant et en tant qu'auteur et artiste.
Bien volontiers. Alors je vais lire un extrait d'un chapitre qui s'appelle « Le radeau et la mer », qui est situé justement à Maripasoula, dans l'intérieur de la Guyane. Matin paisible. Je remonte à pied la piste qui va du fleuve au collège. Une demi-heure de marche habituellement ponctuée de bonjour et de palabres. Mais il n'y a plus personne. Une porte s'entr'ouvre et se referme. Les rares visages aperçus sont crispés, les regards fuyants. Cette nuit, notre vieille voisine indienne a été tuée de plusieurs balles perdues, tirées, dit-on, à bout portant. Ce n'étaient pas des feux d'artifice ni des pétards qui m'avaient réveillé, mais des tirs de Kalachnikov. Il est chanceux, l'homme qui, comme moi, ne sait pas faire la différence entre le bruit d'un fusil de guerre et celui d'un pétard. Quelques balles ont atteint notre toit. On m'explique ce que je sais déjà, on me raconte. Dans ce territoire reculé qui échappe en partie au contrôle de l'État, nombreux sont les hommes qui viennent des pays voisins pour travailler dans l'or. Ils se voient confisquer leurs papiers et triment pendant quelques mois dans des conditions inhumaines. La paye, quand elle arrive, permet de nourrir des familles lointaines ou bien est dépensée au bordel et au bar. Mais la paye souvent n'arrive pas. Certains se révoltent, s'enfuient du chantier, reviennent pour prendre l'or. Il y a quelque temps, deux personnes ont été tuées dans une attaque, la cuisinière du site et l'un des assaillants. Peu de temps après, les hommes de P, un des gros orpailleurs du village, ont capturé six Brésiliens et les ont torturés. Épines de palmier Cunana plantées sous les ongles, brûlure de cigarette, début d'immolation. Parmi les tortionnaires, il y avait des parents que je croise tous les jours. Comme dans tout bon western, chacun connaît leur nom et chacun se taira. L'un des rescapés, laissé pour mort, est parvenu à ramper jusqu'au dispensaire. Parfois, le Brésil affrète un avion militaire pour évacuer ses ressortissants. On enquête, on envoie l'armée, ces commandos vêtus de noir qu'on croise alors au petit matin, rampant dans les fossés pendant qu'on part admirer les oiseaux. La situation se calme, tout est oublié, puis tout recommence. Cette fois, les miliciens ont pénétré chez tous les Brésiliens. Ils ont pris les radios, les quads, les bijoux. Ils ont aussi menacé les Indiens de représailles, car leur territoire est l'objet de convoitises et qu'ils pouvaient ainsi faire d'une balle plusieurs coups. La rumeur maintenant se propage. Toutes les filles indiennes du collège vont être violées, ils l'ont dit. Je regarde, éberluée, la file des Indiens qui quittent le collège et se dirigent vers les longues pirogues qui les attendent pour les ramener dans leur village à quelques heures de navigation en amont de Maripasoula. On parle fort, on s'agite, on s'affole. M, qui est d'origine portugaise, a quitté le village. Il s'est fait agresser, a-t-il dit. Mais d'aucuns le soupçonnent d'avoir profité de la situation pour tenter d'obtenir un poste plus tranquille. Pendant ce temps, la capitale tangue tout autant, secouée par les affrontements entre des manifestants excédés et les forces de l'ordre. On regarde sur la télévision des voisins les scènes d'émeutes. Bientôt, comme le calme succède toujours à la tempête, la ville et le village ravaleront leur rage. Ce tout petit pays ballotté entre une Amérique du Sud qu'ils redoutent et un océan Atlantique auquel ils tournent le dos n'est pas le radeau de la Méduse. Il tient bon et l'on ne s'y dévore encore que sporadiquement. Bon an, mal an, la croisière continue.
Merci Lionel Cepoloni. C'est donc un extrait de L'éloignement, votre dernier texte disponible aux éditions Mutine. Avant de nous séparer, Lionel, et d'encourager nos auditrices et auditeurs à se rendre sur le blog des éditions Mutine, à partir duquel on peut se procurer votre ouvrage. Avant l'enregistrement de cet entretien, vous avez donné un élément de réponse à la question « Pourquoi publier ?» Et vous m'avez dit quelque chose qui m'interpelle. Je reprends vos propos. Vous me disiez que finalement, vous souhaitiez toujours vous défaire de vos textes, qu'une fois publiés, ils ne vous appartenaient plus. Et vous avez même utilisé une formule un peu abrupte comme ça, « J'aime m'en débarrasser ». J'aimerais bien que vous reveniez un tout petit peu sur cela.
C'est ce qui permet d'aller de l'avant, hein. Moi, je pense que tant que j'ai encore le texte à ma disposition, je suis tenté de revenir dessus, de le retravailler. Et je dirais que le cordon n'est pas coupé. À partir du moment où le texte est publié, eh bien c'est formidable parce qu'il appartient à ceux qui le lisent, qui peuvent y trouver de tas de choses que je n'y ai pas forcément vu moi-même. Et oui, ça c'est vraiment quelque chose qui permet d'avancer. C'est pour ça que par exemple la publication sur Internet que je pratique aussi, puisque j'ai un site dans lequel je publie énormément, pour moi n'est pas quelque chose de suffisant. Nous avons besoin d'éditeurs, nous avons besoin vraiment de ce travail des maisons d'édition que porte vaillamment Marie-Thérèse Mutin depuis maintenant 20 ans.
C'était Lionel Cepoloni à notre micro, un des 14 auteurs des éditions Mutine, présents à l'hôtel de Vauguay à Dijon le 28 novembre 2015. Si vous désirez commander les ouvrages dont il a été question aujourd'hui, rendez-vous sur le site internet des éditions Mutine, edition-mutine.over-blog.com. L'achat en ligne est d'ailleurs possible. Ou alors vous écrivez aux éditions Mutine, 34 rue des Vernottes, 21 110, CC sur Tille.